Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec notre invité ce soir, Rémi Audou, conseiller départemental des Hautes-Alpes indépendant sur le canton de Tallard et maire de Lettré. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien, Rémi Audou?
Très bien.
Est-ce que vous êtes un peu anxieux en ce moment? Est-ce que vous êtes un peu anxiogène, comme le dénonce le maire de Tallard, Jean-Michel Arnaud, par rapport à la rentrée prochaine?
Non, anxieux, pas du tout. Je suis vigilant.
Vigilant, c'est-à-dire sur quoi? Parce qu'il y a quand même deux avis hein, qui s'opposent. Jean-Michel Arnaud, de son côté, paraît un peu plus serein par rapport à la rentrée prochaine suite à sa discussion avec l'inspecteur académique des Hautes-Alpes. Non, le collège de Tallard n'est pas en danger, selon lui, alors que pour vous, les collèges ruraux sont dépossédés.
Le collège de Tallard n'est pas en danger. Par contre, la qualité de l'enseignement, elle, peut être en danger. Il y a des faits qui sont que l'inspection académique prévoit une baisse d'effectifs pour le collège de Tallard, notamment pour les classes de 6e et de 4e. Du coup, dans l'enveloppe des heures d'enseignement qui nous ont attribuées, on avait le choix, au niveau du collège, entre soit fermer deux classes, une classe de 6e, une classe de 4e, soit supprimer la quasi-totalité des options. Avec la première enveloppe qui a été proposée, le principal a proposé, et ça je le rejoins là-dessus, de maintenir les options. Parce qu'un collège qui n'a pas d'options comme l'option aéronautique sur le collège de Tallard, qui est vraiment une option qui marque hein, le collège, qui permet de lui donner une identité.
Surtout qu'il y a Poly-Aéro.
Surtout qu'il y a Poly-Aéro juste à côté. Il y a un aérodrome qui est particulièrement dynamique. Si on supprime la classe bilingue italien, si on supprime le latin, au final, on va créer un effet qui va être que les parents d'élèves voudront scolariser leurs enfants sur des collèges de gap pour pouvoir bénéficier des options. Maintenant, la suppression d'une classe de 6e et d'une classe 4e, ça veut dire quoi? Ça veut dire des effectifs de 26, si on garde les prévisions basses de l'inspection académique, en 6e et 28 en 4e. Et ce que je dis, c'est que la qualité de l'enseignement n'est pas la même si on a une classe de 22 ou si on a une classe de 28.
Alors, selon Jean-Michel Arnaud, il y a une assurance de la part de l'académie, c'est que s'il y a des inscriptions complémentaires, à peu près une quinzaine selon le maire, eh bien des moyens complémentaires seraient donnés.
Oui, sauf que hier j'ai rencontré avec Patrick Vincent, l'inspecteur académique, qui m'a dit effectivement que si les effectifs pouvaient permettre qu'il y ait une quatrième classe de sixième, il donnerait les moyens. Je lui ai donc demandé, donc vous abonderez l'enveloppe de 26 heures, qui correspond au volume horaire d'une classe de sixième. Il m'a répondu, ah non, non, ce sera beaucoup moins que ça.
Donc, il n'y aura pas une nouvelle ouverture malgré cette quinzaine d'inscriptions en plus.
S'il y a une nouvelle ouverture, mettons qu'il nous donne, je ne sais pas, 12 heures par exemple, ça veut dire qu'il faudra qu'on trouve 14 heures ailleurs pour pouvoir créer cette quatrième classe.
Mais c'est quand même bien une réalité aussi. On est dans une guerre des chiffres forcément entre une diminution d'effectifs et donc une diminution aussi de la dotation globale horaire. C'est une logique aussi. On n'y peut rien. Les territoires ruraux ne sont plus aussi attractifs. Et forcément, l'éducation en pâtit.
Alors, les territoires ruraux ne sont pas attractifs, ce n'est pas exactement vrai. La démographie augmente. Le seul problème, c'est que les personnes qui viennent dans les Hautes-Alpes, généralement, c'est des gens de 50 ans et plus qui donc n'ont pas d'enfants qui sont scolarisés en collège. Maintenant, c'est aussi une des missions de l'éducation nationale de faire en sorte que la qualité de l'enseignement puisse être la même sur tout le territoire. On donne des moyens aux zones d'éducation prioritaire et c'est normal. C'est normal que dans les quartiers nord de Marseille, il y ait des moyens pour qu'il y ait des classes à plus petits effectifs. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus. La question, c'est de dire, c'est très bien de donner des moyens aux zones d'éducation prioritaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut déposséder le rural. Nous, on ne veut pas dire, donnez-nous les moyens que vous donnez au centre urbain d'éducation prioritaire. On veut dire, donnez-nous d'autres moyens pour pouvoir nous aussi avoir un enseignement de qualité, pour avoir accès à des options comme on peut en avoir dans un centre urbain, que nos enfants puissent avoir droit de faire du latin, d'avoir le droit de faire une classe bilingue, d'avoir le droit de faire du sport. C'est ça qu'on veut pour les enfants du collège de Tallard.
Mais au final, Jean-Michel Arnaud a donc raison, vous le disiez. C'est pas que nos territoires ne sont pas attractifs, ils sont attractifs, mais pour une population qui n'est plus active, en tout cas, ou qui va sur l'âge de la retraite. Il y a donc un vieillissement de la population dans les Hautes-Alpes. Et donc, quand je disais il a raison, c'est qu'il égratigne au passage le conseil départemental. Lui, qui a été vice-président en charge notamment de la jeunesse, il note un désengagement dans la politique en direction justement de cette jeunesse. Il énumère la suppression des bourses aux étudiants, des aides de fonctionnement en structure de crèche, halte-garderie, la suppression de la carte YES, sans compter l'augmentation de la fiscalité de 25%. Forcément, avec tout ça, ça ne rend pas un territoire attractif pour une jeunesse qui pourrait apporter de futurs collégiens.
Alors, c'est vraiment une polémique que je regrette parce que j'aurais préféré que plutôt que de venir parasiter un peu le mouvement de défense, de promotion du collège, il se joigne à nous. Moi, j'étais tout à fait prêt à lui faire une place dans le mouvement qu'on a mené avec les enseignants et avec les syndicats de parents d'élèves sur le collège de Tallard. Maintenant, le territoire, non, il est attractif pour tout le monde. Et la politique de la jeunesse qui est menée par le conseil départemental, elle se recentre sur ses compétences et elle va essayer d'être plus efficace. Moi, la carte Yes, j'ai voté pour la suppression. Parce qu'en séance, j'ai demandé, et c'était la condition pour que mon vote soit favorable, qu'il y ait un nouveau dispositif qui soit plus favorable. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'était la carte Yes? C'était un saupoudrage. C'était on donnait à tout le monde 30 euros pour le permis, 10 euros pour un club de sport, etc.
Et donc ce sera quoi demain si c'est plus favorable?
Moi, ce que j'ai demandé, c'est que le département négocie avec les clubs sportifs qu'il subventionne pour que les tarifs d'inscription dans ces clubs sportifs dépendent du quotient familial. Le but, c'est pas de donner le même montant à tout le monde. Selon moi, le but, c'est que chaque enfant puisse avoir accès à une activité sportive. Il y en a pour qui ça pose pas de problème, et il y a encore des enfants à qui les parents sont obligés de dire non, on peut pas t'inscrire dans ce club de sport parce que tu as pas les moyens.
Donc ça sera selon quoi? Selon le revenu fiscal des parents?
Selon le quotient familial calculé par la caisse d'allocation familiale. C'est ce que font déjà certains clubs sportifs. Il faut généraliser ce mouvement et le département peut être chef de file pour négocier avec les clubs sportifs pour l'expliquer aussi. Pourquoi ils peuvent y avoir un intérêt? Parce que ça peut être aussi plus de jeunes qui sont inscrits dans des clubs sportifs ou dans des activités culturelles. Mais c'est aussi le rôle des mairies. Et là, on oublie peut-être un peu le rôle du mairie. Nous, je sais qu'à Lettré, on a pris une délibération au CCAS pour que justement les enfants, les familles puissent déposer des demandes d'aide pour les voyages scolaires ou pour les activités culturelles et sportives. Et j'ai créé une commission d'attribution dont je ne fais pas partie exprès, qui attribuera des aides en fonction du quotient familial.
Donc il se passe des choses pour la jeunesse dans les Hautes-Alpes, parce que la dernière fois qu'on avait reçu dans Au bout de l'actu Carole Chauvet, qui est vice-présidente en charge de la jeunesse, elle semblait bien malheureuse de pouvoir nous annoncer quoi que ce soit en matière de politique de la jeunesse.
Ben, Carole Chauvet fait partie de l'exécutif, donc elle doit être bien mieux placée que moi pour dire ce qui se fait en matière de jeunesse, surtout que c'est sa délégation.
Sa délégation.
Moi, vous savez, au département, je siège en tant qu'indépendant avec Patrice Vincent, mais même au-delà des groupes, on est quelques conseillers départementaux à être un peu sur la même ligne politique. Je pense que notamment sur le vote du budget, vous avez pu voir...
Vous êtes abstenu.
Je me suis abstenu avec deux autres collègues, Guy Blanc et Florent Armand, parce qu'on est un peu sur la même ligne politique. On est des élus qui ont une sensibilité de gauche affichée, qui ont une sensibilité humaniste surtout. Pour autant, dès lors que ce qui se fait dans le département, ce qui nous est proposé, va dans le bon sens, on n'hésite pas à le voter. Alors pourquoi une abstention sur le budget et pas un vote pour? Parce que, je vais parler en mon nom parce que je ne suis pas habilité à parler au nom des autres, mais il me semble que le département aurait dû être plus offensif dans le combat, et notamment le combat médiatique qu'il doit mener contre l'État. L'État nous doit énormément d'argent et ce n'est pas acceptable que l'État... Ne donne pas les moyens pour assurer les missions qu'il nous a transférées. Le fait qu'il ne nous rembourse pas les allocations individuelles de solidarité, c'est vraiment pas acceptable. Et moi, j'aurais été pour un combat beaucoup plus violent.
On va revenir sur ce sujet dans quelques instants. Rémi Oudou, restez avec nous. On marque une courte pause sur Alpe 1. À tout de suite.
Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Vous êtes sur Alpe 1 avec notre invité ce soir, Rémi Oudou, conseiller départemental des Hautes-Alpes, indépendant sur le canton de Tallard. Et je note bien le indépendant parce que c'est important de le souligner. On parlait juste avant la pause du budget. Vous vous êtes abstenu. L'opposition, elle, a voté contre. Alors, vous le disiez aujourd'hui, on n'a pas lancé un débat suffisant avec l'État concernant les AIS, les allocations de solidarité. Où il est passé ce débat en décembre dernier dans l'hémicycle? On avançait cette volonté de recentraliser la solidarité sur l'État. Et puis février,
qui est absolument l'erreur à ne pas faire, recentraliser. Pourquoi? C'est pas comme l'avait dit Gérard Fromm, parce qu'il faut que le département garde plusieurs compétences pour maintenir son existence. C'est pas du tout ça. Si on recentralisait aujourd'hui les AIS, qu'est-ce qui se passerait? L'État nous dirait, ok, bon ben département, les AIS, ça vous coûte tant, donc on reprend la charge des AIS, mais vous nous transférez le montant équivalent, qui est actuellement à un pic. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'avec le retour de la croissance, le montant des AIS va diminuer. Donc, pour le département, c'est une opération complètement perdante.
Alors, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on paye le maximum des AIS et que demain,
je pense que oui. Ça va pas, à mon avis, ça ne va pas augmenter. Les années 2015, 2016, 2017, ça a été les trois années à un pic. Là, ça va soit stabiliser, soit même légèrement diminuer. Mais surtout, qu'est-ce qui se passerait? Si l'État reprenait la compétence des AIS, ben, il pourrait dire, voyant ce que ça lui coûte, surtout si d'aventure ça augmentait, on pourrait dire ben, on va durcir les conditions d'accès ou on va baisser les montants. Là, l'État joue un jeu qui est, à mon avis, très hypocrite avec les collectivités, notamment les départements, avec le pacte financier. L'État dit les collectivités doivent limiter l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2%, et pour le département, c'est solidarité inclus. Sauf que comment est-ce qu'on fait, nous, pour limiter nos dépenses pour le RSA, sachant que ce n'est pas nous qui décidons des conditions d'attribution, et ce n'est pas nous qui décidons du montant. Donc j'avais dit, pour faire de la provocation à l'Assemblée territoriale, ben peut-être qu'il faut qu'on mette des quotas de gens qui touchent le RSA dans le département. C'est évidemment pas ma position, mais c'était pour marquer. Parce que si on peut pas toucher les conditions d'attribution ni le montant, quel est notre autre choix ?
Mais quand vous dites, je me suis abstenue sur le budget, notamment par rapport à l'augmentation de 25% de la fiscalité sur la taxe, on aurait dû durcir le débat, mais alors sur quoi ?
Sur quoi sur les conditions compensation du transfert de cette compétence. RSA, PCH, prestation de compensation du handicap, et APA, aide personnalisée d'autonomie.
Mais qui a failli ? Parce que l'Assemblée des départements de France ne part pas non plus au créneau.
Oui, l'Assemblée des départements de France ne mène pas un combat suffisamment médiatique, parce qu'il faut pouvoir toucher les gens. Si on ne touche pas les gens, on ne pourra pas mener de combat. Et le département a quand même eu une action qui aurait peut-être dû être amplifiée, c'est qu'il a fait appel à la CAF pour la trésorerie du RSA pendant un mois. Il a remboursé après ce qu'il devait à la CAF, évidemment. Mais peut-être que si l'ensemble des départements, pendant un moment, disaient ben « Nous, tout ce qu'on va transférer, c'est ce que l'État nous donne pour ses compétences. Mm-hmm. Pas plus, pas un euro de plus. » Si tous les départements faisaient ça, là, on enclencherait un bras de fer avec l'État.
C'est-à-dire enclencher une dette ?
On peut appeler ça une dette ?
Auprès de la CAF ?
On peut appeler ça une dette.
C'est ce qui a été annoncé, d'ailleurs, par Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Ça n'a jamais été fait.
C'est un combat auquel, moi, je serais favorable. Mm.
Mais alors, au final, alors vous le dites, aujourd'hui, l'État ne nous donne plus suffisamment. Pour autant, on a appris dimanche que le département des Hautes-Alpes bénéficiera d'une plus grosse enveloppe de DETR, de dotation d'équipement au territoire, plus 7%. L'enveloppe totale représentera plus de 11 millions d'euros, presque 12 millions d'euros. C'est plus que le montant de la fiscalité qui a été augmenté. Ce fameux plus 25% rapportera chaque année 11 millions d'euros. Est-ce qu'il faut revenir sur cette hausse de la fiscalité au vu de cette DETR ?
Non, parce que la DETR ne va pas que à la collectivité départementale. Elle va principalement aux communes de moins de 2000 habitants et aux EPCI.
Et donc, demain, qu'est-ce que cette DETR devra représenter sur le territoire ?
Ben, la DETR, elle représentera ce que l'État veut bien nous donner.
La priorité, selon vous, dans les Hautes-Alpes ?
Ça, c'est à la préfecture de le dire. Pour moi, la priorité, c'est vraiment le maintien des services publics en milieu rural, les compétences eau et assainissement. Sauf que là, effectivement, on a un autre souci, qui est que les communes hésitent à investir sur leur réseau d'eau et d'assainissement, parce qu'il y a cette question du transfert de la compétence qui n'est pas tranchée. Et là, d'ailleurs, le Parlement, à mon avis, fait une grave erreur en voulant repousser, pour certaines collectivités, le transfert obligatoire 2026. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va repousser les investissements à 2026.
Mais vous dites aujourd'hui, cette DETR, le département ne la touchera pas. Certes, mais en tout cas, le département aide aussi les collectivités. Oui. Ce que disaient Marcel Canard et Patrick Ricoux également, les deux vice-présidents en charge des routes et des finances, demain, on ne va pas enlever des aides qu'on donne aujourd'hui aux collectivités, même si ça n'est pas dans nos compétences. Finalement, avec cette DETR, le département peut se désengager et faire des économies ?
Non, parce que la DETR ne peut abonder un projet qu'à hauteur de 40%. Et encore, 40%, c'est la barre haute. Donc du coup, une petite collectivité, si elle doit sortir 60% d'autofinancement, elle ne peut pas s'en sortir. Il faut soit qu'elle fasse appel à la région via le FRAT, mais le FRAT est limité à 12 000 euros, soit qu'elle fasse appel au département, soit dans le cadre des enveloppes cantonales, soit dans le cadre des enveloppes thématiques. Une petite collectivité, une mairie comme celle de Lettré, si elle ne monte pas à 60-70% de subvention, elle ne peut pas faire face. Mais même d'autres communes, que ce soit Talard lorsqu'ils refont leur château, s'ils ne peuvent pas faire appel au département et à l'État, à deux entités différentes, ils ne peuvent pas monter ces projets.
Aujourd'hui, le département s'en prend beaucoup à l'État et semble un peu moins, j'allais dire, méchant avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour autant, Renaud Muselier, le président de l'hémicycle marseillais, a annoncé qu'il viendrait en aide au Pas de l'Ours, notamment dans le Queyra, uniquement si l'État prend ses responsabilités. Encore une fois, on a l'impression que les départements ruraux sont un peu pris en otage dans un débat national.
Ils sont totalement pris en otage. C'est la collectivité qui a le plus souffert ces dernières années, le département. Ce n'est pas les communes, hein, je vous dis. La situation de Lettré est beaucoup plus facile à gérer que celle du département. Effectivement, moi, c'est là le fait qu'être indépendant me donne une certaine liberté, c'est que même si sur beaucoup de points, je me retrouve dans la politique menée par Jean-Marie Bernard, j'ai voté la motion présentée par le groupe d'opposition sur le rôle de la région. La région, notamment pour ce qui est des chantiers d'insertion, ne joue pas le jeu et nous met dans une situation extrêmement compliquée parce qu'ils n'ont pas compris que les chantiers d'insertion, c'est de la compétence économique.
Ils se sont en régionale. Effet désengagés des structures des Hautes-Alpes. Ça représente 500 000 euros en moins et qui seront compensés certainement par le département des Hautes-Alpes. En tout cas, comme Jean-Marie Bernard l'a annoncé.
Oui, ce sera compensé, mais ça veut dire qu'on fait encore appel aux dépenses du département, aux finances du département.
Alors parlons des calamités agricoles. Pascal Boyer, qui est député également conseiller départemental, demande aujourd'hui au gouvernement des indemnisations exceptionnelles face aux gelées noires qui ont touché les exploitations arboricoles sur le sud des Hautes-Alpes. 35% sont actuellement indemnisés. Elle demande au gouvernement d'augmenter le dispositif pour aller entre 50 et 75% d'indemnisation. Et elle poursuit sa requête jusqu'au département des Hautes-Alpes en demandant de compenser les dispositifs nationaux.
Alors, c'est pas vraiment une compétence départementale. L'économie agricole, c'est une compétence régionale. Donc, l'État, effectivement, contrairement à ce qu'avait pu nous annoncer le précédent préfet, n'est pas allé très haut dans son indemnisation. À 35%, c'est vraiment, on est vraiment limite.
Alors, la nouvelle préfète, Cécile Bigot de Kayser, a annoncé qu'il y a des moyens de faire recours et qu'elle les exercerait.
D'accord, je la remercie parce qu'effectivement, si on monte pas au moins jusqu'à 50%, voire plus, ça va être très compliqué pour nos agriculteurs qui, pour certains, ont perdu l'intégralité de leur récolte, d'autres 80%. C'est extrêmement dur. Après, j'avais cru comprendre que la région participerait également à l'indemnisation dans le cadre de sa compétence d'économie agricole. Le département, ça va être compliqué parce que ce n'est pas vraiment notre compétence. Mmh. Les communes peuvent également aider en proposant un dégrèvement de la taxe foncière sur le non-bâti. Nous, c'est le cas pour les traits. Des agriculteurs ont été complètement dégrévés de leur taxe sur le foncier non-bâti. Et je vais même proposer d'ailleurs au conseil municipal une baisse de 10% de la taxe foncière pour l'année 2018.
Et il y a aussi une autre difficulté qui touche les arboriculteurs, c'est le feu bactérien qui est en train de ravager certaines exploitations. Là aussi, ça va mettre à mal l'une des richesses du département. Alors bien sûr que le débat va du côté de Marseille, mais c'est aussi au département de le porter, comme aux parlementaires d'ailleurs.
Oui, mais le département intervient quand même dans l'économie agricole via la dette, via la délégation de Christian Hubeau, notamment sur la question du renouvellement des vergers. Le feu bactérien, pour le moment, sur notre canton, ça n'a pas été une question pour laquelle on a été saisi, mais on va se tenir en alerte avec Patricia Vincent si jamais des agriculteurs nous le demandent. La question du feu bactérien, c'est encore une fois une question d'indemnisation. Et il faudra que l'État et que la région indemnisent le cas échéant.
Comment jugez-vous aujourd'hui, Rémi Audou, le débat autour des personnes migrantes? Alors ce matin, il y avait une mobilisation devant le conseil départemental et devant le tribunal pour demander le maintien du CHUM de Vennes, un centre d'hébergement d'urgence pour mineurs isolés, qui est illégal puisqu'il s'agit d'une réquisition d'un bâtiment sur Vennes. De l'autre côté, il y a eu l'affaire autour d'Aurélie Poyot du côté de Briançon. Est-ce que d'ailleurs le conseil départemental doit trancher en sa défaveur?
Non, moi là-dessus, j'ai suivi sur vos ondes cette affaire avec Aurélie Poyot. Je la crois tout à fait, je la vois pas du tout faire des choses illégales. Et bon, que le Front National s'en prenne à elle, c'est absolument pas nouveau, mais là-dessus, elle a absolument tout mon soutien. Pour ce qui est de la question des migrants, je pense que le problème, il doit être traité à la racine. Et le problème, c'est vraiment le problème des passeurs, qui est une filière mafieuse. Qui m'inspire le plus grand dégoût parce qu'en fait, ils promettent à des jeunes un avenir merveilleux en France, en Europe, en Grande-Bretagne, etc. Ils dépossèdent tout un village de leur richesse parce que tout le village participe au trajet. Beaucoup de jeunes meurent en mer en traversant. Et enfin, lorsqu'ils arrivent, pour ceux qui y arrivent, lorsqu'ils arrivent en France, ben l'Eldorado n'est pas là. L'Eldorado n'est pas là parce qu'il n'existe pas. Il n'a jamais existé, l'Eldorado. Mais en fait, en vendant du rêve, on assassine des villages, on assassine des jeunes, on assassine toute une génération de jeunes qui peuvent travailler en Afrique pour, au final, un gâchis humain qui est phénoménal.
Dernière question, Rémi Audou, on va se recentrer un peu plus sur votre canton, mais surtout sur l'agglomération de Gap-Talard-Durance, puisque vous en faites partie. Si l'Assemblée nationale a adopté la possibilité de reporter à 2026 le transfert de l'eau et de l'assainissement, comme vous l'abordiez il y a quelques instants, ce n'est que pour les communautés de communes. Quant aux communautés d'agglomération comme Gap, Tallard-Durance, le transfert est obligatoire pour 2020. Vous faites partie de ceux aujourd'hui qui le refusent. Vous parliez tout à l'heure d'investissement, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que lorsqu'on a un réseau d'eau, par exemple, vieillissant, qu'il faut remplacer des canalisations. Actuellement, la compétence pour l'agglomération Gap-Tallard, la compétence est aux communes. Mm-hmm. Sauf que si une commune investit, d'une part, c'est elle qui doit payer l'investissement, ce qui fait que, d'une part, elle paye, mais en plus, son attribution de compensation, ce que l'agglomération lui reverse du fait qu'elle ne touche plus la taxe professionnelle, va être diminuée du montant de l'amortissement amorti. Donc en fait, on a une espèce de double peine pour les communes qui ont investi et qui ont un réseau, qui ont un réseau propre. Donc en fait, vraiment, là, les communes n'ont absolument pas intérêt à investir maintenant sur leur réseau. En fait, il y a une espèce de prime à celui qui n'a pas fait d'investissement.
Donc c'est ça réseau, que vous craignez que le réseau se délite au fur et à mesure et que les montants d'investissement soient beaucoup trop lourds pour les agglomérations ?
Alors, c'est pas tant que... Je pense que, quelle que soit la collectivité qu'il porte, les investissements vont être à faire. Je pense que la commune est la mieux placée pour faire ces investissements parce qu'elle sait, le maire a une meilleure connaissance du réseau que peuvent avoir les services de l'agglomération et surtout le maire est beaucoup plus disponible et à moindre coût que peuvent l'être les services de l'agglomération qui ont un réseau beaucoup plus grand à gérer. Donc c'est pour ça que moi je préfère que la compétence eau puisse rester aux communes. Maintenant le fait qu'il y ait un report, à mon avis c'est vraiment un faux débat, on fait reculer le problème et surtout on ralentit la rénovation des réseaux d'eau qui pourtant est une nécessité. Actuellement, il y a un tiers de la ressource en eau qui se perd à cause des réseaux. Un tiers de la ressource. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur les réseaux et il ne faut pas tarder à le faire.
Rémi Oudou, conseiller départemental des Hautes-Alpes indépendants sur le canton de Tallard et maire de Lettré, était l'invité d'Au bout de l'actu. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt sur Alpe 1. Dans quelques instants, c'est le retour du récap de l'info, la première édition. À tout de suite sur Alpe 1.